Radio Okapi.
Le parti politique AFDCA de Bahati Lukwebo encourage le chef de l'État à explorer toutes les voies possibles pour mettre fin à la guerre dans la partie est de la RDC. Ce parti estime, après des échanges hier avec le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, qu'il est nécessaire de parler aussi avec les agresseurs de la RDC. 6 personnes ont été tuées à la machette par des miliciens de la CODECO URDPC la nuit dernière dans le site des déplacés de Loda dans le territoire de Djougou en Ituri. Selon des sources sécuritaires dans la région, les victimes ont été tuées dans leurs abris. Emmanuel Tankwe Mulundu est l'invité de ce journal. Il est ingénieur en bâtiments et travaux publics et directeur général du groupe de génie civil de topographie et d'expertise immobilière. Il va parler des écroulements de certains immeubles enregistrés à Kinshasa. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal. Le parti politique Alliance des Forces démocratiques du Congo, AFDCA, de Bahati Lukwebo, encourage le chef de l'État à explorer toutes les voies possibles pour mettre fin à la guerre dans la partie est de la RDC. À l'issue de l'échange hier avec le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, dans le cadre des consultations politiques, Bahati estime qu'il est nécessaire de parler aussi avec les agresseurs de la RDC. Pour lui, toutes les autres négociations en cours sont utiles pourvu qu'elles aboutissent à la paix. On l'écoute au micro de Billy Yvan Lutumba.
Au niveau de l'AFDC allié, nous soutenons avec force le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son combat pour le retour rapide de la paix. Et nous avons dit que toutes les voies sont les bienvenues pourvu qu'elles nous conduisent à la paix. Donc toutes les voies, que ce soit les négociations directes avec ceux qui nous agressent, que ce soit les initiatives comme celle de Senko et CC, que ce soit l'initiative de Doha, que ce soit l'initiative de Nairobi et aussi la cohésion interne, toutes ces voies-là doivent nous permettre rapidement de revenir aux fondamentaux pour que nous puissions bâtir une fois pour toutes une armée solide, parce que sans armée, tout le monde viendra toujours nous enquiquiner, et donc nous devons en être conscients pour que nous mettions l'accent sur la bonne gouvernance dans tous les secteurs, en commençant par le secteur sécuritaire et les autres secteurs de la vie nationale.
S'agissant justement des consultations politiques pour aboutir à un gouvernement d'union nationale, plusieurs partis et acteurs politiques de l'opposition disent boycotter ces consultations. Interrogés par Radio Okapi, ses opposants estiment que cette démarche de Félix Tshisekedi ne va pas résoudre la crise sécuritaire actuelle. Elle vise plutôt à consolider un pouvoir en crise de légitimité. Par conséquent, l'opposition affirme qu'elle ne va pas cautionner ce qu'elle qualifie de mascarade politique et une fuite en avant du pouvoir. Elle soutient de préférence l'initiative d'un dialogue inclusif tel que préconisé notamment par la CENCO et l'ECC pour offrir une issue durable au conflit. Les réactions des uns et des autres avec vous, Grâce Amzati.
Le parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, à travers son porte-parole Hervé Diakessé, explique pourquoi il ne veut participer à aucune démarche parallèle en dehors de celle des évêques.
Ces autorités ecclésiastiques ont su prendre langue avec toutes les parties prenantes, l'opposition armée comme l'opposition non armée, l'opposition institutionnelle comme l'opposition extra-institutionnelle, et leur démarche a aussi obtenu le soutien des chefs d'État de la sous-région, ainsi que de certains partenaires occidentaux. Nous soutenons toute démarche que ces autorités vont initier, et nous estimons qu'il est plus que temps d'avoir la responsabilité de comprendre que la situation de notre pays n'exige plus des solutions cosmétiques à la chaise musicale avec des postes à donner, mais nous devons vraiment faire face à des situations politiques qui exigent avant toute chose de faire l'unité autour de nous avant de chercher un gouvernement d'union nationale.
Réaction similaire de l'ECID de Martin Fayoulou, LGD de Matata Ponyomapon, mais aussi d'Envol de Délice et Sanga, qui demande à Félix Tshisekedi de cesser les calculs politiciens et mettre l'intérêt du peuple au-dessus de ses ambitions. De son côté, le FCC, famille politique de l'ancien chef d'État Joseph Kabila, se demande pourquoi cette nouvelle initiative alors qu'il y en a déjà plusieurs en cours. Le FCC refuse donc de prendre part à une messe qui, à l'évidence, cherche plus à légitimer et défendre un pouvoir plutôt que de servir la cause d'une paix durable et l'intérêt supérieur des Congolais dans leur diversité, peut-on lire dans sa déclaration.
De son côté, la société civile s'interroge. Un gouvernement d'union nationale pour qui et pourquoi? La composante jeunesse a, dans une déclaration hier lundi à Kinshasa, plaidé pour l'implication de la vraie majorité nationale dans les grandes décisions de la République. Pour son porte-parole Mukenge Totoro, l'exclusion de la jeunesse à tous les rendez-vous de gouvernance du pays est une erreur historique et fatale à corriger. Et pour Didier Bitaki, expert en désarmement et en droits de l'homme, ces consultations sont une pure distraction. Michel Kifindangoy.
Saluant toutes les initiatives visant à rétablir la paix en RDC, la composante jeunesse met la classe politique en garde face à toute tentative de son exclusion, qui est, selon son porte-parole, une erreur historique. Mukenge Totoro.
Nous avons vu défiler plusieurs dialogues politiques dans notre pays, présentés à chaque fois comme des solutions miracles aux crises congolaises. Mais qui réellement bénéficie de ces dialogues? Quand il s'agit de défendre la patrie, la sensibilisation des jeunes se fait directement dans la population. Lorsque vient le moment de former le gouvernement, tout se passe uniquement par les partis politiques.
Didier Bitaki, expert en désarmement et en droit international humanitaire, juge ces consultations des pures distractions et d'arnaques.
Le nouveau gouvernement mis en place après les consultations nationales ira au front pour combattre le M23. Le président est encore arnaqué par celui qui lui a donné l'idée de convoquer des consultations nationales. Le président doit quitter cet emprisonnement dans lequel il se trouve, des acteurs politiques malhonnêtes qui l'ont induit en erreur depuis le début de la guerre jusqu'à aujourd'hui. Il doit quitter cet engrenage.
Didier Bitaki invite donc le président de la République à se ressaisir pour impliquer les intelligences capables de faire sortir le pays de la guerre.
Toujours à Kinshasa, Aubin Minaku, deuxième vice-président du PPRD, a été auditionné pour la deuxième fois consécutive hier lundi par l'auditorat supérieur militaire. Ses auditions ont duré toute la journée et il n'a été libéré qu'à minuit. Selon son avocat, son client s'est soumis au même interrogatoire que le premier. Tout tournerait autour de sa communication avec Corneille Nanga et un des proches de ce dernier, condamnés tous deux dernièrement par la justice militaire. Il était question, d'après son conseil de procéder à une expertise de ses appels et messages téléphoniques. Il n'y a rien au dossier, confie son avocat. Parlons encore justice. La Fondation Bill Clinton pour la paix dénonce une détention arbitraire et opaque du pasteur Daniel Ngoï Mulunda, président de l'ONG Paix et Réconciliation PAREC. Dans son communiqué publié hier, cette ONG exige vérité, justice et respect des droits humains. Elle exprime sa vive préoccupation face aux conditions de détention de l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, dont la situation demeure entourée d'incertitudes depuis son arrestation à Lusaka en Zambie le 8 décembre dernier, suivi de son extradition à RDC. Justicia Asbel aussi alerte sur la situation de ce pasteur de l'église méthodiste. Jeff Ngoy pour les détails.
La Fondation Bill Clinton rappelle que si des accusations pèsent sur le pasteur, il doit être jugé dans le strict respect des lois en vigueur. Son maintien en détention dans des conditions floues constituerait une violation flagrante de l'article 18 de la Constitution. Celle-ci garantit à tout individu le droit de connaître le motif de son arrestation et de comparaître devant un juge compétent. Cette situation est d'autant plus préoccupante, indique l'ONG, alors que le pays siège actuellement au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Face à cette situation, Bill Clinton pour la paix plaide pour la transparence du lieu de détention du pasteur et pour son état de santé. Elle plaide également pour que lui soit garanti l'accès immédiat de sa famille et de ses avocats, son transfèrement devant un juge. Et si son décès tel qu'annoncé sur la toile est avéré, la Fondation en appelle à l'ouverture d'une enquête indépendante et impartiale pour en établir les circonstances exactes et engager des poursuites contre les responsables.
Au Nord Kivu, des accrochages ont opposé ce mardi matin des combattants du M23 aux groupes armés VDP Wazalendo dans le village Kirundu, groupement Banabangi, à environ 10 km du chef-lieu du territoire de Walikale sur l'axe Mubi-Kisangani. Il n'y a aucun détail sur ces combats, affirment nos sources sur place. Elles ajoutent que la situation continue de se dégrader à Walikale centre où la présence du M23 est toujours visible. Emmanuel Elamejo Akabedi.
Ce sont des détonations d'armes lourdes et légères qui ont été entendues dans la matinée de ce mardi dans ce village de Kirundu, groupement de Banabangi, témoignent les habitants se trouvant à Walikale centre. Pour ces derniers, la situation reste tendue dans la cité à la suite des menaces des groupes armés qui occupent les villages tout autour et qui tente de reprendre le contrôle, contraignant le rebelle à se retirer de la zone telle qu'ils l'ont annoncé le week-end. Ces nouveaux combats interviennent au lendemain d'autres ayant opposé le matin d'hier lundi les rebelles du M23 aux combattants Wazalendu dans les villages de Shabunda et Mutakato, 27 kilomètres du chef-lieu du territoire sur l'axe Masisi. Près de 6 jours après l'occupation de Walikale et Centre par le rebelle, les activités socio-économiques peinent à y redémarrer, affirme la société civile locale. La cité reste vidée à plus de 50% de sa population. Les quelques habitants qui y sont restés sont entassés, les uns autour de l'hôpital général, les autres autour de la base du MSF, entre autres.
Emmanuel Elameji Wakabedi sur Radio Kapi. En Ituri, 6 personnes ont été tuées à la machette par des miliciens de la CODECO URDPC la nuit de lundi à ce mardi dans le site des déplacés de Loda dans le territoire de Djougou. Selon des sources sécuritaires dans la région, les victimes ont été tuées dans leurs abris. Les assaillants ont également incendié 10 de maisons dans le village voisin de Di. Martial Kizabiamongo.
Une 20aine de miliciens de l'Union des révolutionnaires pour la défense des peuples congolais, URDPC Barcodeco, ont envahi le site de déplacés de Loda lundi soir vers 21h locale. Ils ont intimidé les déplacés en tirant des coups de feu en l'air avant de visiter différents abris qui hébergent les déplacés, rapportent des sources concordantes dans la zone. 6 personnes, dont un enfant et 2 femmes, sont ainsi tuées à la machette. Les mêmes sources ajoutent que des soldats des FRDC et les casques bleus de la MONUSCO sont intervenu, ce qui a permis de limiter les dégâts. 3 personnes grièvement blessées ont été évacuées à Bounia ce mardi par un hélicoptère de la MONUSCO pour des soins. Mais avant ces drames, ces éléments de la CODECO ont mis les feux à 18 maisons abandonnées par leurs occupants qui fuyaient les exactions, rapporte des sources locales. Nous n'avons pas eu la réaction des autorités à ces sujets. Bounia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Au moins 10 morts, dont 9 miliciens Mobondo et 1 soldat FRDC, bilan des affrontements entre l'armée et la milice Mobondo dans le groupement Makengo, territoire de Kenge, province du Kwango. Les combats ont duré plusieurs heures avant que les troupes loyalistes ne prennent le dessus sur ces rebelles. Le porte-parole de l'opération Ngemba de la 11e région militaire fait savoir que 12 armes de guerre ont été récupérées, des lances et des grigues saisies. Pour le moment, le calme est revenu dans ce coin de la province du Kwango, affirme le capitaine Anthony Mwalushai. Il est au micro de Irène Bomaluzolo.
Les forces armées de la République démocratique du Congo se sont violemment affrontées à un groupe d'insurgés Mobondo qui était armé des armes de guerre dans le groupement Makengo, territoire des Kenge, nous sommes dans la province du Congo. Le combat a duré plusieurs heures avant que les troupes loyalistes ne prennent le dessus sur les insurgés Mobondo. Le bilan provisoire fait état des 9 insurgés Mobondo neutralisés et des 12 armes de guerre récupérées, ainsi que des lance et des gris-gris saisis. Côté FRDC, 1 soldat est tombé sur le champ d'honneur et 3 autres ont été blessés avant d'être évacués vers l'hôpital militaire de Kinshasa pour y recevoir des soins appropriés. Après 2 jours d'opération de ratissage dans la zone, le calme est revenu dans l'ensemble du groupement Makengo. Profitant de cette occasion, le général-major Padiri Moïse Jonas, commandant de la 11e région militaire et responsable des opérations militaires, il a invité les habitants à collaborer étroitement avec le service de défense et de sécurité en signalant tout mouvement suspect.
Au Kasaï oriental, 2 morts, quelques blessés et plus de 2000 ménages sinistrés, c'est le bilan officiel des pluies diluviennes du week-end dernier sur Mbujimayi. Le maire de la ville, les responsables des entreprises chargées de construire et de moderniser les routes au Kasaï oriental ont sillonné le 5 communes de la ville pour évaluer les dégâts de la pluie. L'autorité urbaine demande aux familles sinistrées d'être calmes. Jean-Marie Lutumba est au micro d'Esther Ndalafina.
Nous avons enregistré au-delà de 2000 ménages sur toute la ville de Mbujimayi. À mon niveau, je reconnais que 2 morts de 2 enfants dans la commune de Bipembe. Et une dame qui est internée à l'hôpital avec les enfants, on a ramassé les gens et ils ont été récupérés facilement sans problème. Nous sommes dans l'obligation de faire un rapport à l'ERH et certaines dispositions seront prises à notre niveau et il y en a aussi qui viendront d'ailleurs. Vous savez, la ville a été lotie en désordre depuis longtemps. Néanmoins, les dispositions ont été prises ensemble avec les services techniques. Il y a des choses qui seront faites. fait, ce qu'on peut ajouter encore, ce n'est que demander à notre population d'être calme. Les services techniques entrent sur terrain à partir d'aujourd'hui, selon notre conversation avec le ministre provincial en charge des UTPR. Ils doivent identifier les sinistrés. Nous avons parlé en termes de ménage, sans parler des parcelles, et nous avons demandé qu'on nous dépose les rapports le plus tôt possible pour prendre certaines dispositions parce qu'il y a des ménages qui passent nuit sous la belle étoile et même dans des églises, ainsi de suite.
Actualité internationale.
Des centaines de civils ont été tués hier dans une frappe de l'armée soudanaise sur un marché de la ville de Tora dans le Darfour Nord. C'est ce que dit le communiqué publié ce mardi par Emergency Lawyers, un collectif d'avocats soudanais pro-démocratie qui documente les violations des droits humains depuis les débuts de la guerre au Soudan. En raison de la coupure des télécommunications dans la région du Darfour, ce bilan n'a pas pu être vérifié de manière indépendante par des agences de presse et l'armée soudanaise n'a pas encore réagi à cette accusation. De leur côté, les FSR accusés par les États-Unis de génocide au Darfour ont imputé à l'armée la responsabilité de ce massacre. La vaste région du Darfour a été le théâtre de centaines des pires atrocités de la guerre, notamment des bombardements au baril explosifs sur des zones civiles, des attaques des paramilitaires sur des camps des déplacés touchés par la famine, ainsi qu'une violence ethnique généralisée.
L'invité.
Kinshasa, la capitale congolaise, fait face au défi des écroulements d'immeubles. Après le récent drame du quartier Mboudi à Mongafula, où un immeuble de 8 niveaux, partiellement habité, s'était effondré, mais sans faire des victimes, quelle solution pour éviter ce genre de catastrophe? Emmanuel Tankwe Mulundu, ingénieur en bâtiment et travaux publics et directeur général du groupe des génies civils de topographie et d'expertise immobilière GGTE, s'entretient au téléphone avec Ben Chokuta.
Ingénieur Emmanuel Tankwe, qu'est-ce qui peut expliquer alors, selon vous, les principales causes de l'écroulement des bâtiments, en général?
En ce qui concerne Kinshasa, nous pourrons noter la cause principale des écroulements des bâtiments et d'abord la non-réglementation de la profession. Vous voyez, chez nous ici au Congo, en général, comme dans plusieurs domaines d'ailleurs, qui touchent à la vie humaine, il n'y a pas de réglementation. Quand vous voyez le domaine de la santé, vous allez voir, par exemple, quelqu'un qui vous vend les médicaments dans la rue comme ça, vous ne savez pas, il est passé par quel laboratoire, les dosages et tout ça.
Bon, d'après vous, est-ce que vous avez déjà eu à remarquer une tendance inquiétante concernant la construction des immeubles, par exemple la façon de construire et puis d'autres choses?
Les erreurs sont les gens, surtout qui assistent à ça. C'est comme ce que j'ai dit précédemment, quand il n'y a pas une certaine réglementation dans la profession, on se permet de tout parce qu'il faut qu'on se le dise que les erreurs sont partagées. Bon, l'État a sa part de responsabilité, les ingénieurs et architectes ont la leur, mais aussi les clients. Parce qu'aujourd'hui, les particuliers cherchent, par exemple, les ingénieurs qui peuvent leur demander des honoraires qui les arrangent, vous voyez, et même le coût des devis des bâtiments qui les arrangent. Quand vous faites un devis selon la norme, ils vous trouvent peut-être cher. Ils cherchent quelqu'un d'autre qui va faire un devis moins. Mais aussi qu'il faut rappeler, il y a les préalables pour arriver à l'exécution d'un bâtiment. Il y a beaucoup de techniciens qui interviennent, vous voyez. Il y a l'architecte qui doit concevoir un plan. Il y a les géotechniciens qui doivent faire les études de sol pour déterminer quel type de fondation qu'on doit faire pour un bâtiment quelconque. Et puis, il y a les ingénieurs qui doivent faire les calculs des structures pour déterminer, par exemple, les barres de quel diamètre qu'il faut utiliser.
Oui, d'après vous, donc, on peut aussi accuser les matériels que les ingénieurs utilisent.
Mais bien sûr, je reviens surtout sur la non-réglementation de la profession. Tout part de là. Aujourd'hui, nous avons toutes sortes de barres de fer à Kinshasa que l'État ne sait même pas contrôler. Il y en a qui ont résistance. Il y en a qui ne le sont pas. Il y en a qui ne respectent même pas le diamètre. On vous dit que ce sont les barres de 12, par exemple. Hein. Mais quand vous mesurez, vous vous rendez compte qu'en réalité, le diamètre n'arrive pas à 12 cm. Alors, le problème, c'est que les propriétaires des bâtiments eux-mêmes, des fois, se passent des experts pour aller chercher à acheter, donc, lui, à un ingénieur ou un architecte. Mais il préfère aller acheter lui-même des matériaux ou venir donner à l'ingénieur qui va seulement travailler.
Oui, ingénieur, tant que, lorsque, par exemple, ces dégâts arrivent, ces tragédies arrivent, sur la ville de Kinshasa. Vous, en tant qu'ingénieur en bâtiment et travaux, comment vous sentez cet impact-là? Est-ce que ça vous dérange? Comment vous sentez-vous?
Mais bien sûr, ça ne peut que me déranger parce que c'est notre profession qui est mise en jeu. Les gens ont tendance à généraliser. Est-ce que vous savez aujourd'hui à Kinshasa, il y a des clients, des propriétaires qui s'octroient de se passer même des experts. Il va trouver un papa là, maton vieux, il dit pourquoi? Non, lui a participé à la construction de l'échangeur. Il était d'ailleurs contre-maître là-bas. On le prend là-bas, on l'utilise. Et dans plusieurs chantiers d'ailleurs, c'est comme ça, parce qu'on juge que les experts se servent.
Lorsque ce genre de tragédie arrive à Kinshasa, est-ce qu'il y a des sanctions ou bien des organes qui inspectent les travaux qui se font après?
Il y a des services qui viennent inspecter après les dégâts. Mais moi, je crois que c'est souvent trop tard. Ce qu'il faut noter d'abord, que tous ces domaines-là doivent être dirigés par les experts. Parce qu'en principe, avant d'octroyer un permis de construire, vous devriez d'abord vous rassurer que celui qui est en train de construire là est d'abord un expert. Il a qualité. Et puis, vous devriez étudier tout ce qu'il a comme données, si ça concorde réellement avec le plan qu'il veut exécuter. Et aussi en ce qui concerne les études géotechniques. Mais aujourd'hui, quand les agents de l'urbanisme viennent au chantier, et qu'est-ce qu'ils demandent? Déjà, lui-même ne fait rien parce qu'il n'est pas du domaine. Il ne sait même pas vous poser les questions appropriées par rapport au travail que vous faites là. Il y en a qui ne demandent même pas les plans parce qu'il ne maîtrise pas. Parce que vous pouvez lui donner le plan, il ne va rien comprendre. Tout ce qu'il cherche, c'est l'argent. L'État devait avoir une police de contrôle en bâtiment en ces domaines qui devait venir avant de vouloir octroyer un permis de construire ou une autorisation de bâtir.
Ingénieur Emmanuel Tankoué, merci d'avoir répondu à nos questions.
C'est la fin de ce journal mis en onde par Jean-Claude Onsiala, Moana Makengonsoalou. La coordination est signée Élisée Chikota Chivueta Mwamboui sous la supervision de Martin Sebujangwe. Au micro, c'était Noëlla Luzito Kabambi.